Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h30, bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Un méga contrat signé ce matin à Dubaï, les Émirats Arabes Unis nous achètent 80 avions de combat Rafale et 12 hélicoptères Caracal, le tout fabriqué par Dassault Aviation, un contrat à plus de 16 milliards d'euros. L'action Dassault a pris 10% ce matin. On est avec Maud Descamps du service économie d'Europe. On est avec Jacques Serret du service politique et avec Sébastien Boussois, qui est spécialiste du Moyen-Orient. Les militants républicains votent depuis ce matin pour départager Éric Ciotti et Valérie Pécresse. C'est le second tour de la primaire des Républicains. On connaîtra demain le résultat. Je demanderai à Alexandre Chauveau si c'est gagné d'avance pour Valérie Pécresse, comme on le dit. On sera également avec le politologue Jérôme Fourquet. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles restrictions? On parle évidemment de l'épidémie de Covid, les réponses de Louis Dragnel avant le Conseil de défense sanitaire de lundi prochain. Et puis le temps avec vous, Anissa Dadi, la tendance est à la pluie aujourd'hui.
Oui, c'est une perturbation océanique qui, depuis ce matin, touche les régions situées sur le grand quart nord-ouest. À l'est, le ciel va se couvrir légèrement cet après-midi. Le soleil résiste encore au bord de la Méditerranée, mais le vent souffle fort. Les températures sont plus douces sous les nuages de la moitié ouest.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Ce contrat des Rafales est gigantesque. On va le décortiquer ensemble. Alors, c'est un contrat à plus de 16 milliards d'euros, dont 2 milliards pour l'armement. Il y a aussi 12 hélicoptères dans ce contrat et de la technologie. C'est une victoire pour Dassault Aviation. Maud Descamps, bonjour.
Bonjour.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Les retombées économiques vont être très importantes pour la France.
Oui, ce sont des milliers d'emplois qu'il va falloir créer, surtout au cabinet de Florence Parly, la ministre des Armées, pour fabriquer et livrer 80 Rafales aux Émirats Arabes Unis entre 2027 et 2031. Une commande d'environ donc 17 milliards d'euros, donc 14 pour les Rafales, 2 milliards pour leur armement et 1 milliard pour 12 hélicoptères de combat. Voilà de quoi donner de la visibilité à la filière aéronautique pour les 10 prochaines années. Se félicitons au ministère des Armées. Il faut bien se rendre compte que c'est le contrat le plus important jamais signé par cette filière. Le Rafale, vous savez, est fabriqué à 90% en France. 400 entreprises avec comme principal acteur Dassault Aviation qui travaillent directement pour la filière. 7000 emplois des entreprises qui vont donc devoir se mettre en ordre de bataille. Aujourd'hui, c'est un Rafale qui sort des usines françaises chaque mois. Eh bien, avec cette nouvelle commande, il va falloir augmenter la cadence, explique-t-on dans l'entourage de la ministre, et passer à 2 voire 3 Rafales par mois. Des avions qui seront dotés d'une technologie de très haute qualité qui permet notamment aux Rafales de communiquer entre eux sans passer par la voie des pilotes. C'est ce qu'on appelle le combat connecté.
Merci beaucoup Maud. Doubler, voire tripler la cadence de fabrication des Rafales. Le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu lui-même à Dubaï pour signer le contrat aux côtés de Dassault. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Ce contrat devrait faire oublier le fiasco des sous-marins australiens.
Oui, c'est en quelque sorte la revanche de la France sur les États-Unis qui avait raflé le contrat des sous-marins avec l'Australie, car jusqu'à présent les Émirats Arabes Unis privilégiés surtout les avions F-35 américains. Une revanche également pour Emmanuel Macron qui, avec cette vente historique, on peut le dire, lave son honneur sur la scène internationale. Oubliez le fiasco des sous-marins, cette annonce tombe à point nommé pour le chef de l'État, un mois avant la présidence française du Conseil de l'Union européenne, où Emmanuel Macron justement veut convaincre nos voisins du projet d'Europe de la défense. Cette commande ferme et non pas une simple promesse d'achat va contribuer à renforcer l'attractivité de notre industrie militaire auprès des membres de l'Union. Alors en coulisses, il faut savoir que les Émirats Arabes Unis avaient manifesté leur intérêt pour le Rafale il y a un an, mais la France a tout fait pour que ce deal soit rapidement conclu. Florence Parly, la ministre des Armées, s'est d'ailleurs impliquée personnellement dans les négociations selon son entourage, car s'il y avait évidemment la question financière que représente un tel contrat, le symbole politique est tout aussi important pour Emmanuel Macron à 4 mois désormais de la présidentielle.
Jacques Serret, merci beaucoup Jacques. On est en direct avec Sébastien Boussois. Bonjour Sébastien Boussois. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur sur le Moyen-Orient et les relations euro-arabes, auteur du livre « Les Émirats Arabes Unis à la conquête du monde ». On est dans le sujet là, hein. Les Émirats Arabes Unis à la conquête du monde. À quoi tous ces rafales, 80 rafales, vont-ils servir aux Émirats?
Bah écoutez, c'est peut-être le bémol de l'affaire en réalité, parce que les Émirats, depuis des années, s'inscrivent dans une logique de remodelage du Moyen-Orient à leur image, c'est-à-dire de plus en plus imposer des régimes d'un côté, de l'autre participer à des conflits, notamment la guerre au Yémen, qui malheureusement ont montré leurs limites. Donc d'un côté, effectivement, c'est une victoire pour la France qui se retrouve avec ce contrat qui représente la moitié des fameux contrats sous-marins. De l'autre côté, il faut toujours se poser, me semble-t-il, la question inévitable de savoir ce qu'on va faire effectivement avec ces armes. Et moi, je suis relativement un peu plus inquiet pour la région même du Moyen-Orient, d'autant plus que la relation entre la France et les Émirats est suffisamment bonne pour quelque part un peu déléguer aux Émirats le rôle un peu de bon élève dans la région, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre l'islamisme et d'imposition de modèles contre-révolutionnaires comme ça a été le cas. Donc on retrouvera sûrement ces rafales sur des zones de conflits à venir. Je ne sais pas ce qui se passera au niveau du Nil, du Soudan par exemple, ou de l'Éthiopie. On les retrouvera probablement dans d'autres opérations s'il y a d'autres risques de déstabilisation dans la région.
Ils sont clairement nos partenaires.
Partenaire à la vie, à la mort. On est effectivement dans une logique historique. La relation entre la France et les Émirats est excellente depuis des années. La relation était plus forte du temps de Sarkozy entre la France et le Qatar, plus forte avec l'Arabie Saoudite du temps de Hollande. Il ne faut pas oublier que Abu Dhabi dispose d'une base française, donc c'est en cela, ça renforce évidemment la relation fraternelle entre les deux pays. Et puis les Émirats se sont toujours inscrits dans le soutien à la lutte contre l'islamisme qui serait incarné dans certains pays par des forces alternatives islamistes ou autres. Et les Émirats sont un peu ce modèle de lutte contre l'islamisme, mais la réalité, c'est que ce pays est extrêmement ingérant dans un certain nombre de pays dans la région et extrêmement déstabilisateur. Et je ne suis pas sûr que des rafales soient un outil de paix privilégié.
Merci Sébastien Boussois, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi, il est 12h37.
Europe Midi, midi 30, 13h, Romain Desarbres.
Éric Ciotti ou Valérie Pécresse ? Valérie Pécresse ou Éric Ciotti ? Le nom du vainqueur de la primaire Les Républicains sera connu demain aux alentours de 14h. Avant de retrouver le politologue Jérôme Fourquet, Alexandre Chauveau. Bonjour Alexandre.
Bonjour Romain.
Vous avez des informations sur le vote du premier tour. Ce sont les chiffres de la participation fédération par fédération et c'est très instructif. Hein.
Oui, parce qu'on se souvient que de nombreuses fédérations LR s'étaient lancées dans une course à la carte pour faire adhérer le plus possible et cela a forcément dû peser quand on regarde le très faible écart entre Éric Ciotti arrivé en tête et Xavier Bertrand qui termine quatrième. Ainsi, en Île-de-France, région présidée par Valérie Pécresse, 7 des 8 départements ont une participation plus élevée que la moyenne nationale, qui est de 81%, et notamment les Yvelines, d'où vient la candidate finaliste, avec 87% de votants. Le vainqueur du premier tour, Éric Ciotti, également à la tête de sa fédération dans les Alpes-Maritimes, n'a étonnamment pu bénéficier que de 76% de participation dans son département. On peut d'ailleurs y voir là l'illustration que son discours et sa ligne ont séduit bien au-delà de sa région. Le plus gros score en pourcentage revient à la Savoie, département de Michel Barnier, avec 91% de participation. Mais cela n'aura donc pas suffi. Participation également au-dessus de la moyenne pour les départements des Hauts-de-France, région de Xavier Bertrand, mais avec une valeur absolue trop faible pour pouvoir peser réellement et se qualifier au second tour.
Alors, si on regarde froidement les appels à voter maintenant, les appels à voter, Valérie Pécresse, ça semble gagner d'avance pour elle.
Sur le papier, en tout cas, elle part avec un certain avantage, notamment grâce effectivement au ralliement des autres candidats, mais aussi d'autres poids lourds du parti comme Rachida Dati par exemple. Mais dans son camp, personne ne crie à la victoire et tout le monde a conscience que les électeurs et la ligne d'Éric Ciotti devront de toute façon être pris en compte. Ce qui est sûr, c'est que le score du vainqueur aura son importance car le parti espère une victoire nette qui offrirait au candidat une légitimité incontestable et qui permettrait de lancer une dynamique à 5 mois de la présidentielle.
Merci Alexandre. Et ce chiffre, la participation de ce second tour était de 39% à midi, donc il y a une quarantaine de minutes. On est en direct avec Jérôme Fourquet, politologue. Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'Institut de sondage IFOP et auteur du livre La France sous nos yeux. Déjà, est-ce que vous avez été étonné par le score d'Éric Ciotti hier ou est-ce que vous l'aviez vu arriver ?
Alors, on va être tout à fait honnête, on n'avait aucune possibilité d'anticiper ou d'estimer ces résultats vu qu'on était, si je puis dire, dans un scrutin à huis clos qui ne concernait que les adhérents. Et nous n'avions, nous, Institut de sondage, aucun moyen d'approcher la réalité de ce corps électoral très, très étroit et très particulier.
Ça, d'accord. Mais vous, politologue, est-ce que vous l'aviez senti ?
Alors on savait que les débats télévisés avaient une véritable influence sur les résultats dans des élections primaires. On l'a vu encore récemment au moment de la primaire écologiste. On l'avait vu au moment de la primaire de la droite en 2016. Et il se trouve que, de l'avis général, Éric Ciotti était assez à l'aise avec sa ligne, puisqu'il n'en avait pas changé historiquement, et qu'il a marqué des points dans ces débats. Donc il y avait une dynamique en sa faveur. Maintenant, savoir qui sortirait en tête, ce n'était pas évident. Et nous, ce qui nous frappe surtout, hein, c'est le fait que le corps électoral se soit quasiment divisé en quatre parts égales, comme si aucun candidat n'avait emporté le morceau, si je puis dire, aux yeux des adhérents qui sont assez divisés. Ce qui est intéressant aussi,
c'est dans un mouchoir de poche.
Voilà, ce que vous avez souligné dans le son précédent, c'était le fait qu'on est dans une logique aussi de baronnie qui pèse très lourdement dans des élections comme les élections internes. Et ce n'est pas totalement un hasard si Valérie Pécresse et Éric Ciotti sont sortis en tête, puisqu'ils sont à la tête des plus grosses fédérations LR de France. Hein, les fédérations d'Île-de-France pèsent très lourd, elles étaient contrôlées par Valérie Pécresse. Et en province, c'est les Alpes-Maritimes qui pèsent aussi très, très lourdement. Donc il y a à la fois une question de ligne politique. Éric Ciotti, on le voit avec sa pole position et son quart de voix, montre qu'il y a un centre de gravité droitier très important aujourd'hui chez les LR. Mais il y a aussi cette logique de baronnie. Et ces barons, quasiment tous aujourd'hui, se sont ralliés à Valérie Pécresse, qui laisse, mais il faut être prudent, assez peu de place au suspense pour l'issue du second tour.
Oui, c'est ça, on va rester. Alors justement, qu'est-ce que vous voyez, au vu de ce qui s'est passé au premier tour, qu'est-ce que vous voyez comme issue pour ce second tour ?
Alors, soyons un peu patients, on verra les chiffres demain, mais on peut penser, au regard des appels à voter pour Valérie Pécresse, même si personne n'est propriétaire de ses voix, et de la proximité idéologique qui peut exister entre un Barnier, un Bertrand et une Pécresse, d'une part, d'autre part, qu'elle devrait sortir assez largement en tête. Tout ce qui sera analysé, du coup, ce sera l'ampleur de l'écart. Et surtout, pour revenir à votre question initiale, quel sera le score d'Éric Ciotti au deuxième tour ? Est-ce qu'il est à 30, 35 ou plutôt à 40 ? Ce qui n'est pas la même chose et ce qui pèsera sur la suite des événements. Vous avez vu que Éric Zemmour s'est félicité et a félicité Éric Ciotti pour son bon score. Et donc, on a cet électorat très droitier de LR qui devra être pris en considération sous peine de voir la dynamique Zemmour être confortée.
Voilà, et ça va être passionnant. Et voilà, effectivement, Éric Zemmour, dans son tweet, a mis le RPR n'est pas mort. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. Merci d'avoir été en direct avec nous, auteur du livre « La France sous nos yeux ». Il est 12h43. Restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe Midi. Dans un instant, nos informations, les informations de Louis Dragnel sur ce qui pourrait être annoncé lundi prochain en Conseil de défense sanitaire. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h46, la Covid, l'épidémie de Covid. Gabriel Attal était ce matin dans les Deux-Sèvres. Il a à nouveau évoqué une progression fulgurante du virus. Un conseil de défense sanitaire doit se tenir lundi prochain. Des mesures de restriction devraient être annoncées. Louis Dragnel avec nous. Bonjour Louis, chef du service politique d'Europe 1. Qu'est-ce qui pourrait être annoncé ? Quelles sont vos informations, Louis ?
Alors tout d'abord, en fait, le gouvernement ne le dit pas, mais il vient de lancer l'opération Sauver Noël, comme il y a un an, jour pour jour. Avec encore ce problème, la progression du virus, mais aussi les capacités hospitalières qui n'ont pas vraiment augmenté. Les projections dont dispose le ministre de la Santé, Olivier Véran, ne sont pas bonnes. 2000 hospitalisations le 5 décembre. Sur son bureau, plusieurs estimations font même état de 3000 personnes admises à l'hôpital pour Covid à la mi-décembre. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'au-delà de ce chiffre, les déprogrammations s'imposent. Une situation que le gouvernement veut éviter à tout prix. C'est pour ça que Jean Castex va s'exprimer lundi pour accélérer la vaccination et notamment faciliter les prises de rendez-vous. D'ailleurs, 300 centres de vaccination mis en sommeil vont rouvrir, mais le rythme de 500 000 personnes vaccinées par jour ne suffit pas pour éviter le pic épidémique anticipé à ce stade au début du mois de janvier. Selon nos informations, à Paris, le centre de vaccination de la Porte de Versailles va être remonté la semaine prochaine sous la houlette des sapeurs-pompiers de Paris. Un objectif, 166 000 injections par semaine. De leur côté, les médecins de ville devraient vacciner 50 000 personnes. La semaine dernière, les pompiers de Paris ont réalisé 10 interventions pour Covid, un chiffre qui est monté à 30 rien que pour cette semaine, dont 2 ou 3 urgences absolues par jour. Enfin, le ministère de l'Intérieur devrait annoncer le renforcement des contrôles de passe sanitaire dans les établissements recevant du public. Depuis le 1er septembre, 6849 contrôles ont été recensés pour 270 verbalisations.
Merci beaucoup Louis Dragnel. 2000 personnes à peu près hein, actuellement en réanimation. 2000 malades de la Covid en réanimation. Afsane El Saboui, la 45e vague. La cinquième vague est là, évidemment. Et ce que vous nous dites, Afsane, c'est qu'elle arrive à l'hôpital. Hein.
Oui, maintenant, c'est très clair. La hausse du taux d'incidence, plus 61% en une semaine, et celle du nombre de contaminations, hein, 48 000 nouveaux cas hier. Là, tout arrive à l'hôpital. La France compte aujourd'hui 10 300 personnes hospitalisées pour Covid, dont plus de 1800 en soins critiques. C'est plus 35% par rapport à la semaine dernière, tout particulièrement en PACA et en Corse, qui sont aussi les zones où la circulation du virus est en hausse. Et Santé publique France souligne que les trois quarts des personnes de moins de 65 ans qui ont été hospitalisées depuis la rentrée sont des non-vaccinés. Et parmi les plus de 65 ans en réanimation, un tiers était vacciné, mais moins de 2% avaient reçu leur dose de rappel. Donc on le voit, pour contrer cette vague du variant Delta, la campagne de rappel vaccinal est en pleine accélération.
Voilà, la cinquième vague est donc là, et on assiste à une accélération de cette épidémie. Et Gabriel Attal, je le répète, parlait d'une progression fulgurante du virus. Merci Afsane.
Europe Midi, midi 30, 13h, Romain Desarbres.
On change totalement de sujet. On est avec vous, William Molinier. On va parler, bonjour William, d'Europol. Europol, la police européenne, lance aujourd'hui sa nouvelle campagne des Most Wanted, les plus recherchés, les fugitifs les plus recherchés, pour tenter de mettre fin à la cavale de plusieurs criminels. Chaque État membre est invité à inscrire une cible de haute intensité, comme on dit dans la police. Sur cette liste, Redouane Faïd ou encore Salah Abdeslam ont figuré en leur temps sur cette plateforme accessible sur Internet et où les citoyens peuvent transmettre des renseignements aux policiers. William Molinier, cette année, c'est un trafiquant de drogue, un trafiquant de stupéfiants, de haute volée qui intéresse les autorités françaises.
Hein. Oui, il s'appelle Joël Soudron, c'est un Guadeloupéen âgé de 42 ans. Il est suspecté d'avoir organisé un vaste trafic de cocaïne entre l'Amérique latine, les Antilles et l'Europe. Entre 2005 et 2011, une trentaine d'expéditions lui sont imputé. C'est lui qui aurait fait par exemple transiter les 230 kilos de cocaïne saisis dans un conteneur du port du Havre en 2011. Un profil atypique, il est décrit par les enquêteurs comme intelligent, très agile, capable de voyager d'un continent à l'autre grâce à des faux papiers. Et surtout, il aurait blanchi des centaines de millions d'euros, comme l'explique le chef de la Brigade nationale de recherche des fugitifs.
C'est quelqu'un qui a une intelligence supérieure, qui a un très bon relationnel. Il a très rapidement pris des parts importantes dans des sociétés pour blanchir son argent.
En février 2016, Joël Soudron est interpellé à Bamako, au Mali. Il est remis à la France, il est incarcéré, mais lors d'une permission de sortie, le 6 septembre 2018, il ne réintègre pas la maison d'arrêt. Depuis, il a complètement disparu des radars. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait se trouver en Afrique francophone, probablement sous une autre identité, où il coulerait des jours heureux grâce à son pactole qu'il aurait réintroduit dans l'économie légale.
Merci beaucoup William Molinier pour toutes ces informations. Il est 12h51. Restez bien avec nous dans Europe Midi. Dans un instant, les handballeuses de l'équipe de France qui débutent leur championnat du monde ce soir à 18h face à l'Angola. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h54, les handballeuses, donc les bleues, les handballeuses de l'équipe de France, vont commencer ce soir leur championnat du monde. Ça sera à 18h face à l'Angola. Jean-François Pérez, bonjour Jean-François.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Elles sont championnes olympiques, nos bleues, elles ont gagné l'or à Tokyo cet été. Ça veut dire qu'elles partent favorites ?
Bon, on va dire que le plus dur est fait, qu'elles font partie des favorites, mais que le meilleur est à venir dans les jours qui viennent. On pourrait résumer ainsi l'état d'esprit des Françaises. Vous vous en souvenez, donc cet été à Tokyo, elles avaient remporté le premier titre olympique hein, de la France en handball féminin. Certaines avaient terminé la compétition épuisées physiquement, mentalement. Et après un automne difficile, on va dire que la forme est revenue. Les filles de l'emblématique entraîneur Olivier Crumbles sont prêtes, à l'image d'une des plus talentueuses représentantes de la nouvelle génération, la joueuse du Metz Handball, Méline Nokandi.
Même si c'est le Graal, championne olympique, Mais je suis très vite redescendue parce que j'ai pas envie de gagner que ça. Et je sais qu'il y a des championnes du monde dans le collectif. Je sais que c'était une émotion extraordinaire. Donc moi aussi, j'ai envie de la vivre. Donc je donnerai tout pour essayer d'aller récupérer ce que je n'ai pas encore.
Voilà, Méline Nocondi avec Axel May. Ce premier match, ce soir, face à l'Angola, devrait être une bonne mise en jambe, on va dire, avant de retrouver la Slovénie et le Monténégro. Il s'agira de boucler ce tour préliminaire invaincu avant de basculer sur des nations plus redoutables comme la Russie, la Norvège ou encore les Pays-Bas, tenant du titre. La troisième couronne de championne du monde pour la France est à ce prix. Et puis, il y a aussi une revanche à prendre sur la dernière édition. Les Bleus n'avaient terminé que 13e. Sachez, dernier mot, que seulement deux nations ont réussi le doublé. Jeux Olympiques, Mondiaux, l'URSS. Ça remonte, hein. Dans les années 80, le Danemark dans les années 90. Les battantes, comme on les surnomme, peuvent donc entrer un peu plus dans l'histoire si elles vont au bout. Finale le 19 décembre, juste avant les cadeaux de Noël.
Juste avant les cadeaux de Noël, effectivement, ça pourrait être un beau cadeau de Noël. Merci beaucoup, Jean-François Pérez. 12h56, le temps avec vous, Anissa Haddadi. Le temps qui devient de plus en plus pluvieux, hein.
Oui, la perturbation qui est arrivée ce matin par la Bretagne et la Normandie est en train d'envahir une grande moitié ouest du pays. Donc cet après-midi, ce sont les Hauts-de-France, la région parisienne, les Pays de la Loire, le centre-Val de Loire, même jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Ce sont toutes ces régions qui se retrouvent sous la pluie. Le vent souffle toujours très fort sur les côtes de la Manche. On a des rafales à 80-90 km/h. Et puis à l'avant de la perturbation, donc plus à l'est du pays, on a des petites chutes de neige qui vont précéder la pluie. Ça concerne la Champagne-Ardenne ou encore le nord de la Bourgogne où on pourrait voir les sols blanchir. Le long des frontières de l'Est, entre l'Alsace et la Méditerranée, on a un temps qui est beaucoup plus calme, avec un ciel dégagé. Quelques nuages viendront assombrir le ciel en région Rhône-Alpes-Auvergne. Mais dans l'ensemble, on a plutôt un temps ensoleillé sur le sud du pays, avec, attention, toujours du vent fort sur le golfe du Lion, jusqu'à 80 km/h cet après-midi. Les températures, elles sont plus douces à l'ouest sous les nuages. 14 degrés à Quimper, à Vannes, à Lorient, à Biarritz. 13 degrés à La Rochelle et Bordeaux. 12 pour Paris, Carcassonne et Rouen. 10 degrés à Nîmes-Reims, c'est plus frais à l'est avec 9 degrés à Saint-Étienne, 7 à Lille et Belfort et 4 pour Grenoble.
Merci Anissa. Il est 12h57, restez bien avec nous sur Europe 1 dans un instant. C'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bel après-midi sur Europe 1.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, je vous mets au jus.
Je sens le pépin là.
Ah bref, en ce moment, le filet d'orange à jus de 3 kg dont un offert est à 2,19€.
2,19€ le filet de 3 kg d'orange à jus, c'est juste pas possible.
Et si, ça revient à 73 centimes le kilo.
Eh ben te presse pas de rentrer surtout, hein, t'es mal.
Lidl, supporter officiel de l'équipe de France féminine de handball. Prix normal pour 2 kg, 2,19€, soit 1,10€ le kilo. Catégorie 1, variété Naveline, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Ce vendredi, méga jackpot Euromillions de 130 millions d'euros minimum. Quel millionnaire serez-vous ? FDJ. Montant à partager Euro 1, plafonné à 230 millions d'euros, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Leclerc. T'as remarqué que pendant les fêtes, on passe plus de temps dans la cuisine que les pieds sous la table ?
Ouais, pour ce qu'on mange en plus.
Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que tu penses du service traiteur Leclerc ?
Les menus super bons concoctés par des chefs, là ? Qu'on peut commander sur place ou sur le site traiteur.com, puis retirer en magasin ou en drive ?
Ouais, c'est une bonne idée, non ? Pour le réveillon.
Ah bah moi je vote pour, vu que je dois manger chez toi.
Sympa.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 23 novembre au 31 décembre, date limite de commande et conditions en magasin ou sur le site traiteur.leclerc.
Ce hennissement, c'est celui d'un beau cheval blanc. Vous vous demandez pourquoi on vous parle de cheval blanc ? Parce que chez Poltron et Sofa, en ce moment, c'est le White Friday. 40...